invité mardi dernier dans notre émission, juste après l'assassinat du père Jacques Hamel, le sociologue Gérald Bronner alertait sur le risque de tomber aujourd'hui dans ce qu'il appelait la narration du pire. Il est important selon lui d'attirer l'attention sur le poids considérable des mots prononcés après chaque attaque. Dans la guerre de communication qui oppose la France à l'organisation État islamique, ces mots ont le pouvoir de nous faire basculer dans une réalité ou une autre, ils ont une force performative. Soit ils dessinent un monde où les terroristes représentent une véritable armée massée à nos portes, aidée par une inquiétante cinquième colonne et donc capable de menacer l'équilibre de notre démocratie, soit ils dressent le portrait d'une minorité d'individus dont l'attentat est la seule arme, car ils sont faibles, leur seul espoir, que nous nous détruisions nous-mêmes. C'est le piège Daesh tendu à nos dirigeants politiques. Au plus mauvais moment, alors qu'ils voient chaque jour leur volontarisme se heurter à leur impuissance. Alors les attentats achèvent-ils la parole politique? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler ici, dans le studio à Paris, Myriam Revaud-Dallone, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de philosophie à l'école pratique des hautes études. De vous, on peut lire récemment « La crise sans fin », essai sur l'expérience moderne du temps. C'était en 2012 au Seuil et toujours au Seuil. On pourra vous lire à la rentrée, dès le mois d'août, « Le miroir et la scène, ce que peut la représentation politique ». On est également au téléphone avec Frédéric Ancel, bonsoir.
Bonsoir.
Géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po. Vous avez publié récemment une tribune dans Le Monde, c'était avec Yves Lacoste, le 26 juillet, intitulée « Face à une idéologie fanatique, nous devons réenchanter la nation républicaine ». Il était justement question du discours qu'on peut tenir face à celui de Daesh. Et à la rentrée, vous aussi d'ailleurs, vous publiez à la rentrée, tiens je vois ça sur ma fiche, « Géopolitique de la nation France », c'est aux presses universitaires de France.
Et enfin, toujours avec Yves Lacoste.
Et toujours avec Yves Lacoste. Bon, et enfin, Christian Salmon, bonsoir. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes écrivain et chercheur au Centre de Recherche sur les Arts et le Langage, donc au CNRS. Et pas de livre à la rentrée, je vois, sur ma fiche, mais de plusieurs livres de vous qu'on peut lire par le passé. Storytelling, évidemment, à la découverte en 2008 et plus récemment, la cérémonie cannibale de la performance politique. Voilà, c'était chez Fayard. Tout ça, évidemment, va nous permettre de penser un petit peu la situation dans laquelle on est. Je signale donc que vous êtes tous les deux au téléphone, évidemment. On est au moment des fin juillet, début août. Voilà, c'est les vacances, donc ben, on va faire cette émission comme ça avec vous, Myriam Revaud-Dallone, en studio et vous deux au téléphone. Alors peut-être une première question, cette question de l'impuissance du politique, cette incapacité de nos dirigeants à produire un récit, à se projeter dans l'avenir, Myriam Revaud-Dallone. Est-ce qu'avec ces attentats qui nous coincent finalement dans les médias, dans le présent, est-ce que cette parole politique, elle peut encore quelque chose?
Bon, écoutez, je crois qu'il y a deux niveaux d'analyse. Il y a un niveau, disons, conjoncturel, celui de la réalité actuelle, qui fait que on a effectivement fait le constat que la parole politique est, disons, relativement dévalorisée, qu'il y a une sorte de langage qui tourne à vide, un appel à des slogans ou à des mots relativement vides. On peut prendre l'exemple, bon, de la guerre, hein. Est-ce qu'on est en guerre?
Le fait de parler de guerre.
Par exemple, le fait de parler de guerre, est-ce que certains disent on est en guerre, d'autres disent on n'est pas en guerre? C'est évident qu'on n'est pas dans le paradigme de la guerre classique. On est peut-être, puisqu'on a déjà, on connaît déjà l'expression de guerre asymétrique depuis un certain temps, il est possible que l'on soit, faudrait s'interroger sur la possibilité qu'on soit dans une nouvelle forme, disons, de guerre, d'hostilité. Mais il y a une deuxième chose qui est que, et c'est ça qui me, au fond, non pas qui m'intéresse particulièrement, mais qui me soucie, disons, plus spécifiquement, c'est qu'au-delà de la conjoncture actuelle, il y a une grande difficulté pour la démocratie structurellement à faire face à des attaques qui l'ébranlent dans ses structures. C'est-à-dire, au fond, on connaît l'expression qui était déjà l'expression de Robespierre et de Saint-Just, hein, quand il s'en prenait aux ennemis de la Révolution, il disait « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Bon, donc la démocratie, elle se trouve confrontée à cette espèce de dilemme qui est que lorsqu'elle fait elle a affaire à des ennemis qui s'en prennent à ses structures, à son cœur, est-ce qu'elle doit faire face avec des moyens qui ne sont pas au fond, n'ont pas des moyens démocratiques, mais avec des moyens qui ébranlent ces structures elles-mêmes, ou bien est-ce qu'elle doit s'en tenir? Alors, si l'impuissance de la démocratie, ça veut dire qu'elle est incapable de se défendre, là, il y a un problème réel.
Évidemment. Bon.
Christian... C'est tout ce qui, au fond, accourt aujourd'hui dans la discussion sur le rapport entre la sécurité et l'état de droit.
Christian Salmon, sur cette question justement de la parole politique et de se demander si elle peut encore quelque chose.
Oui, écoutez, je pense que au-delà des événements conjoncturels auxquels nous sommes confrontés, et qu'il faut penser, bien sûr, il faut quand même, pour commencer, peut-être souligner le paradoxe de ce volontarisme impuissant, qui est un peu le fait de non seulement notre gouvernement, mais de tous les gouvernements dans les démocraties occidentales. D'où vient ce paradoxe? Eh bien, le fait que la volonté politique doit s'exercer alors que l'État, pour de multiples raisons, est privé de ses moyens d'agir. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté de l'État, la souveraineté politique? C'est une puissance d'agir. Et évidemment, articuler à cette puissance d'agir un dispositif de représentation, une parole, un grand récit qui prolonge, si vous voulez, les effets de cette puissance d'agir. Or, depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, ce qu'on constate, c'est que la souveraineté nationale est disloquée. Elle fuit de partout. Elle fuit vers le bas par les compétences qui sont conférées aux régions, aux villes, et on en a vu un des effets au moment de la polémique sur la sécurité à Nice après
la police municipale, oui.
Elle fuit vers le haut en cédant le contrôle des frontières, le pouvoir de battre monnaie aux institutions européennes, le pouvoir économique aux multinationales, l'évaluation même de leur politique économique aux agences de notation. Donc, si vous voulez, on a une action qui est perçue comme impuissante, et pourtant l'État, ce qu'il en reste en tout cas, doit faire contre mauvaise fortune ou contre manque de moyens bon cœur.
Et en ce qui concerne le discours justement, là, comment est-ce que la question du discours politique vient s'inscrire dans ce schéma, dans ce tableau que vous nous dressez, Christian Salmon?
Justement, c'est que lorsque vous n'avez pas les moyens d'agir, toute parole volontariste est frappée de soupçons, de décrédibilisation. Si pour s'en tenir au dernier quinquennat, on a eu l'affaire Cahuzac, qui était quand même exemplaire, puisqu'on avait un ministre chargé en quelque sorte de la signature de l'État, dire devant la représentation nationale que qu'il n'avait pas menti, qu'il n'avait pas de compte en Suisse, et donc il avait menti. Il y a eu l'affaire de Florange avec les tâtonnements, il y a eu toutes sortes de couacs, il y a la dernière affaire de la déchéance nationalité où l'État n'arrive pas. Donc il n'est pas très étonnant, il y a les dernières accusations de mensonges qui sont faites contre le ministre de l'Intérieur, hein, qui est quand même un des ministres régaliens qui garde quand même un certain pouvoir, ou, j'entendais au cours de votre journal, les accusations contre la justice, encore ou contre l'ex-ministre de la justice, Christiane Taubira. Donc, si vous voulez, plus l'État est un souverain, plus on a une parole politique qui est décrédibilisée, qui tourne à vide, et du coup, on a une sorte de verbalisme, c'est-à-dire que plus l'État est un souverain, plus les communicants prennent de l'importance, plus la parole publique perd de son crédit, plus elle semble sous perfusion des communicants.
Et ça nourrit évidemment la déception. Frédéric Ancel, vous croyez, si j'en crois moi-même, la tribune que vous avez publiée avec Yves Lacoste face à une idéologie fanatique, nous devons réenchanter la nation républicaine. Vous croyez-vous à la possibilité, en passant par la parole politique, par la parole publique, de réenchanter, comme vous le dites, la nation, en tout cas en passant par un discours sur la nation et la République?
Oui, absolument. À la fois par un discours et puis par les actes, bien évidemment. Ce qui vient d'être dit m'interpelle, et je suis d'accord avec cela. La souveraineté nationale est est absolument fondamentale. Les, vous savez, vous connaissez la sentence, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Il n'y a pas de souveraineté, il y a des preuves de souveraineté et de détermination à faire usage de tous les outils que, démocratiquement, la nation française s'est octroyée en quelque sorte sur au moins deux siècles, et notamment dans le cadre des républiques. Alors, lorsque vous êtes confronté à une adversité particulière, ça peut être du terrorisme islamiste, ça peut être autre chose, la parole publique, politique, c'est-à-dire celle de nos élus, des gens que nous avons, dont nous avons décidé qu'ils étaient les plus compétents à un moment M pour assumer ces fonctions régaliennes qui viennent d'être évoquées à juste titre, c'est bien évidemment à eux de parler, de s'exprimer et d'agir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le fait de nommer les choses. Et je suis de ceux qui considèrent que le Premier ministre Manuel Valls, après les attentats de Charlie Hebdo et d'Hyper Cacher, a été parmi les rares d'ailleurs à l'époque, à avoir eu le courage, notamment à l'Assemblée nationale, donc au cœur de notre République, stigmatiser l'ennemi. Hein. C'était, je le cite, le terrorisme. Bon, mais ça c'est l'emploi de la force dans un cadre un peu particulier. Effectivement, c'est pas un paradigme habituel, mais c'est quand même, me semble-t-il, une forme de guerre, on pourra y revenir. Donc le terrorisme, disait-il, le djihadisme, et l'islamisme radical. Il n'y a pas meilleur moyen de perdre une guerre, allez, disons, pour ne pas enclencher tout de suite le débat sur le terme de guerre, l'hostilité qui nous a été opposée, il n'y a pas meilleur moyen de perdre un engagement qu'en refusant de nommer l'ennemi, et plus exactement de s'intéresser aux représentations, pour le coup lacostienne, c'est-à-dire aux perceptions identitaires, aux stratégies, aux objectifs qui sont les siens. Et je suis de ceux, encore une fois, qui considèrent que, à partir du moment où on est, où la classe politique, où les dirigeants politiques, à commencer bien sûr par l'exécutif, président et premier ministre, mettent des mots sur des actions, des actes, des ennemis, des alliés, et puis soi-même, avec l'emploi beaucoup plus récurrent qu'autrefois ces derniers mois, et je m'en félicite, vous en doutez bien, du mot république et du mot de nation, que nous avions malheureusement tous les républicains au sens large du terme, abandonnés à un parti politique qui s'en fait fort et qui se fait le parangon de cette nation, mais qui n'est pas le seul à pouvoir en disposer, je parle évidemment du FN, eh bien en réemployant ces mots-là, quelque part, oui, nous aurons, je crois, davantage de possibilités de mener ce Kulturkampf, cette guerre culturelle qui nous est imposée, et qui n'est pas seulement une guerre des armes ou des bombes ou des couteaux, mais une guerre culturelle entre un modèle totalitaire que nous rejetons, je crois, l'immense majorité des Français, et bien sûr, parmi nous, l'immense majorité des citoyens d'origine musulmane, d'une part, et d'autre part, la nation et la République qu'il faut, me semble-t-il, oui, effectivement, réenchanter.
Donc un combat qui se passe au niveau des mots, Myriam Revaud-Allonne, on y vient, excusez-nous, on va rester un petit peu dans le conjoncturel là, mais ça paraît important de...
Oui, mais enfin, un combat qui se livre au niveau des mots, les mots, veulent dire quelque chose. Et quand on livre un combat au niveau des mots, on suppose que les mots renvoient à des notions, renvoient à des concepts, que, par exemple, puisqu'on parle le mot de guerre ou le mot de sécurité, n'est pas, c'est quelque chose qu'il faut définir, enfin, sous peine de se trouver, au fond, confronté à des... à des apories ou une impuissance encore démultipliée. Si on reprend cette idée de la guerre, on est en guerre avec Daesh, encore faut-il bien spécifier qu'il s'agit absolument pas d'une définition de la guerre conventionnelle, telle qu'on l'a menée en règle générale d'État à État, qu'il ne s'agit même plus de formes de guerre asymétrique telles qu'on les a analysées depuis quelques décennies, mais que là, au fond, s'il y a une guerre, c'est une forme d'hostilité qui suffit pas de nommer, mais dont il faut ici analyser le caractère inédit. Or, moi, je suis quand même assez frappée que dans toutes ces discussions ou dans toutes ces nominations, le côté, je dirais, idéologique ou le côté d'utilisation idéologique l'emporte de beaucoup sur une analyse qui demanderait quand même à être plus approfondie. Alors je sais bien que l'accélération du temps fait que il faut très souvent réagir maintenant ou on réagit maintenant dans le court terme sans se donner le temps ni la possibilité d'analyser des phénomènes qui sont des phénomènes inédits. Mais si, et je sais que c'est très difficile, mais que si on essaye de prendre un petit peu de recul, il faut, au fond, reprendre la question, comment dire, d'une opposition à un ennemi qui s'en prend à, je dirais, l'essence même de ce qu'est la société démocratique. Alors, vous me direz que c'est pas la première fois, parce que Frédéric Ancel a utilisé le terme de totalitarisme. On parle de totalitarisme à propos de Daesh. Encore faut-il souligner ici que si on parle de totalitarisme à propos de Daesh, ça n'a rien à voir avec les totalitarismes nazis et staliniens. Bon, donc là aussi, on voit très bien que...
Donc, les mots sont piégés en quelque sorte.
D'une certaine façon, que les mots sont piégés et que peut-être en utilisant, comment dire, des notions ou des termes qui ont déjà été utilisés à juste titre pour désigner d'autres formes d'hostilité à la démocratie, on se prive peut-être, au fond, de. C'est parce qu'on comprend que l'on peut combattre plus efficacement.
Je ne sais pas qui est-ce qui veut réagir. J'entends dans le téléphone, mais je ne sais pas qui est-ce qui veut réagir à ça. Je pense Christian Salmon, probablement, à ce qui vient d'être dit.
Oui, écoutez, je ne pourrais que rebondir sur ce que vient de dire Madame Revaud-Allonne. Ce qui est frappant, je ne suis évidemment pas du tout d'accord avec ce que disait précédemment la nomination de la menace ou de l'attentat ou des attentats tels qu'on les a connus depuis le mois de janvier 2015 par le Premier ministre. Ne relève pas du tout d'un travail d'élaboration. Il faut ajouter d'ailleurs que il a non seulement nommé l'adversaire de manière caricaturale, sans expliquer, sans analyser, sans argumenter, mais en plus en renvoyant ceux qui s'efforcent de comprendre ou d'analyser à une sorte d'enfer en disant que expliquer c'est excuser et que donc il n'y avait rien à chercher. Alors c'est un peu paradoxal parce que cette question du terrorisme fait l'objet d'une réflexion non seulement sociologique, mais littéraire, depuis très longtemps, depuis Dostoïevski, depuis Conrad, jusqu'à Don DeLillo aujourd'hui. Il y a toute une littérature qui essaie de comprendre de quoi s'agit-il, quel est l'enjeu, quel est le défi du terrorisme. Et je voudrais insister là-dessus, parce qu'au fond, ce qui est paradoxal, c'est que la réponse du gouvernement actuel, en gros, est une sorte de réplique de celle du gouvernement de George Bush après l'attentat du 11 septembre. L'idée d'une guerre à mener, l'idée d'une mobilisation générale, l'idée que le fait de consommer est une forme de patriotisme, l'opposition entre eux et nous, c'est-à-dire tout ce récit de la mobilisation patriotique a été repris tel quel, sans même tenir compte du travail qu'a fait Barack Obama de recodage du récit national pendant 8 ans. Hein. Donc en fait, la menace terroriste, l'attentat, c'est quoi? C'est non seulement l'acte criminel qui effectivement a pour effet de concentrer l'attention, mais au-delà, dit Don DeLillo, c'est un raid sur les consciences. Conrad disait, analyser dans l'acte terroriste un pouvoir de sidération. Vous voyez qu'on est bien au cœur du débat. C'est-à-dire un pouvoir de stupeur, et Hermann Broer disait en 1934, c'est le mutisme qui suit et qui accompagne le meurtre. Hein, on est donc là. Quand on voit l'effet du terrorisme depuis 1 an et demi sur la société française, sur l'ensemble des débats médiatiques, des réactions contre réactions, c'est une succession de fausses informations, de rumeurs, d'allégations. C'est-à-dire que le terrorisme ne propage pas du tout la foi, ne serait-ce un islamisme radical, mais l'incrédulité. C'est ça qui est paradoxal. Il met en crise que le récit, et non pas nos valeurs, ces valeurs qu'on brandit à tout bout de champ, il met en crise le récit que nos sociétés tiennent sur elles-mêmes. Il ruine la compétence narrative du pouvoir en place, on en a parlé tout à l'heure, incrédibilité. Et on constate le manque et l'impossibilité d'une contre-narration. Là encore, je reprends une formule de Don DeLillo, face au tour en ruine, il disait « il n'y a pas de contre-narration possible ». Donc si vous voulez, tout le travail à faire, Ce n'est pas un discours de mobilisation, de construire des caricatures de l'ennemi ou de focalisation. C'est au contraire un travail patient d'élaboration, d'analyse. Ça relève de l'anthropologie, ça relève de l'histoire national du pays, de la colonisation, ça relève.
Oui, mais Christian Salmon, tout ça, c'est le rôle des intellectuels, mais est-ce que c'est le rôle des politiques, voilà, parce qu'ils ont la parole politique. Très rapidement, parce qu'après il y a Myriam Revaudan, je voudrais donner quand même la parole aussi à. Allez-y, je vous en prie.
Juste un mot, hein. C'est le rôle des politiques d'écouter ces spécialistes aussi pour s'informer et pour construire un discours cohérent.
Vous avez l'impression que ça n'est pas le cas, que ça n'est pas le cas aujourd'hui.
Moi, je pense que c'est le discours du politique actuel, c'est une sorte de zone de langage effondrée, de zone de langage sinistrée.
D'accord. Oui, Myriam Revaud-Allan.
Oui, je trouve que c'est quand même un petit peu, je suis partiellement d'accord, mais pas tout à fait, parce que je pense que c'est quand même un peu sévère. Par exemple, la formule de Manuel Valls à propos, elle a été un petit peu, je pense qu'il s'est exprimé de manière extrêmement maladroite, mais il n'a pas véritablement dit qu'expliquer c'était excuser. Je pense qu'il a voulu dire, et on l'a compris après, que l'explication par les déterminismes socio-historiques, évidemment il ne l'a pas énoncé de cette façon, ne rendait pas compte de la nature ou du contenu de l'acte. Mais le problème, c'est un problème, quand je parlais tout à l'heure de l'accélération au fond qui caractérise les sociétés contemporaines, et c'est au sein de ce rythme de temporalité que la question du terrorisme et de la réaction au terrorisme vient s'insérer. C'est pas parce que nous sommes des intellectuels que nous avons la capacité d'ailleurs, au fond, d'élaborer. Là, pour le moment, les intellectuels, je trouve, sont tout aussi...
désemparés.
Peut-être pas impuissants, mais tout aussi embarrassés pour essayer de comprendre des phénomènes qui sont quand même des phénomènes inédits. Et je crois que ce qui se passe maintenant par rapport à, ça n'a pas grand-chose à voir avec les attentats anarchistes, avec Ravachol, enfin bon, c'est d'une nature tout à fait différente, ça s'inscrit dans des phénomènes qui sont des phénomènes de mondialisation, ça n'est pas non plus, c'est-à-dire que toute explication, qui ne serait pas une explication complexe, est une explication qui échoue. Mais quand les explications sont complexes, elles sont extrêmement difficiles à...
Elles sont inaudibles.
Elles sont très difficiles à mener. Et quant aux politiques qui, quelles que soient ses responsabilités, est mis en demeure d'avoir une réaction immédiate, hein. C'est pas simplement... je suis d'accord qu'il y a une mise en crise du récit. Mais c'est pas simplement une mise en crise du récit national dans ce qu'il a de justification, c'est une mise en crise du récit démocratique en tant que tel qui caractérise nos sociétés contemporaines.
Frédéric Ancel, Christian Salmon cite Don DeLillo pour dire « il n'y a pas de contre-récit possible face au tour ».
Non, mais non seulement il y a un contre-récit possible, mais j'aimerais revenir sur différentes choses qui ont été dites et qui sont tout à fait fausses. D'abord, nous ne sommes pas aux États-Unis après le 11 septembre. Et Monsieur Barack Obama, que Monsieur Salmon semble particulièrement apprécier, il a fait exécuter directement entre 20 et 25 000 terroristes réels ou supposés via les drones. Alors, si vous voulez, moi je veux bien qu'on considère que Obama a modifié le discours par rapport à son prédécesseur, dont le discours précisément était assez largement, était d'abord non seulement caricatural, mais à certains égards assez débile. Mais sur le terrain, car Obama, comme aujourd'hui Hollande et Valls en France, a en charge pas seulement des salons parisiens du XVIIIe siècle, mais il a en charge encore jusqu'en janvier, la sécurité d'une part et l'accès à la subsistance à minima d'autre part, de la population, du peuple qui l'a élu pour cela. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la subjectivité la compétence des intellectuels, elle est tout à fait fondamentale. Je pense que les politiques devraient les écouter sans doute davantage. Mais des intellectuels dans les années 30 et 40, parmi eux, beaucoup se sont littéralement effondrés quant à la connaissance ou à la méconnaissance de la plaie qui finalement nous a frappés. Je parle de totalitarisme. Et bien évidemment, chère madame, nous ne sommes pas sur le totalitarisme fasciste, nazi ou stalinien. Il n'en demeure pas moins vrai que pour étudier depuis une bonne vingtaine d'années l'islamisme radical, que vous affirmez, et d'ailleurs nombre d'islamologues vous le disent, musulmans ou pas, d'ailleurs peu importe, vous le disent, Daesh aujourd'hui, à travers ses pratiques et ses discours, correspond bien à un phénomène phénomène de type totalitaire extraordinairement dangereux. Alors, je dis dangereux pourquoi, et c'est le troisième point que je voudrais soulever, nous ne sommes pas sur un débat au terme duquel chacun aura une part de raison et une part de tort. Je considère pour ma part qu'on peut et qu'on doit bien évidemment expliquer l'enchaînement de tout cela, le recours au terrorisme et à travers différentes disciplines, d'ailleurs pas seulement la géopolitique qui est la mienne, et expliquer pourquoi Daesh aujourd'hui frappe la France et pourquoi Daesh existe par rapport à Al-Qaïda, etc. Mais il arrive un moment où de toute façon nous serons bien obligés, nous autres Français, pas nécessairement occidentaux, blancs, que sais-je encore, mais démocrates au sens large du terme, et moi je suis français donc je parle en tant que citoyen français, nous serons bien obligés de considérer que Daesh, c'est une forme, alors vous allez bondir, je le fais un peu exprès, c'est une forme de mal. Aujourd'hui, Daesh, c'est le mal, pas seulement pour les non-musulmans, mais aussi et peut-être surtout pour l'immense majorité des musulmans en France et dans le monde, qui subissent Daesh. Alors, on peut toujours continuer à gloser pendant très longtemps, et c'est tout à fait passionnant, j'en suis à mon 12e ouvrage là-dessus. C'est très bien de parler des perceptions, des représentations et de l'analyse qu'on peut faire de différents phénomènes, dont le terrorisme. Il arrive à un moment où, dans une démocratie qui se respecte, et la France en est une, Monsieur Hollande, Monsieur Valls, Monsieur Cazeneuve, mais en particulier Monsieur Hollande, a concrètement la charge, et dans un temps relativement rapide, malheureusement, dans un temps relativement court, d'assurer la sécurité de ses concitoyens, dont il est le primus inter pares. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on peut toujours tourner en rond, encore une fois, utiliser des dispositifs argumentaires extrêmement intéressants, mais fondamentalement, il n'y a pas de subjectivité qui se valent. La démocratie, elle est moralement supérieure au totalitarisme. Je le dis, l'assume, je l'ai écrit et je le répète jusqu'à la fin de mes
jours. Voilà qui est dit, Frédéric Ancel, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à gloser encore quelques minutes tout de même.
Du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Du grain à moudre d'été pour un débat ce soir autour de cette question. Les attentats achèvent-ils la parole politique? On est avec Frédéric Ancel, qu'on vient d'entendre, le géopolitologue, Christian Salmon, qui est écrivain et chercheur au Centre de Recherche sur les Arts et le Langage du CNRS, et ici à Paris avec Myriam Revaud-Dallone. Myriam Revaud-Dallone, ce que vient de dire Frédéric Ancel, j'ai l'impression que vous n'étiez pas tout à fait d'accord.
Écoutez, je sais pas comment vous dire. Peut-être que ça n'est ni le lieu ni le moment de discuter, comment dire, interminablement pour savoir Daesh est un système totalitaire ou pas. Moi, je suis convaincue que non, ce qui ne le rend pas moins dangereux. C'est le problème n'est pas là. Le problème n'est pas effectivement de désigner Daesh comme étant un système totalitaire pour rendre compte, au fond, de sa nocivité. Je pense, encore une fois, bon, et sans développer des arguties, inutiles, que le fait de nommer des phénomènes nouveaux ou des phénomènes inédits en ayant recours à une conceptualité qui est déjà, qui historiquement est située, ne nous avance ni à comprendre le phénomène et ne nous avance pas non plus à lutter contre lui. On peut toujours dire que Daesh est le mal absolu, on peut être d'accord là-dessus, c'est pas pour ça que c'est nécessairement quelque chose qui est réductible au système totalitaire. Mais peut-être que la question essentielle n'est pas là, la question, parce qu'en fait, on est en train de parler de plusieurs choses à la fois. On est en train de dire que les politiques sont d'une certaine façon mis en demeure de réagir extrêmement vite et dans le domaine de l'action et de la rapidité, là où les intellectuels, effectivement, ont peut-être la possibilité de travailler dans le temps long. Il n'est absolument pas question de jouer les uns contre les autres et de dire que les intellectuels se livrent à des arguties inutiles pendant que les politiques agissent. Le problème n'est pas là.
Christian Salmon, pardon, je voudrais vous entendre justement un petit peu plus sur cette idée de presque l'impossible complexité du discours politique aujourd'hui. On a vu récemment la déclaration de Manuel Valls disant qu'il fallait se préparer à d'autres attentats. Une déclaration, somme toute, qui semble frapper au coin du bon sens quand on s'intéresse un petit peu à ces questions-là. Et pourtant, on a vu dans la classe politique, notamment dans l'opposition, des responsables dire c'est insupportable. Un responsable politique qui doit assurer la sécurité des Français, comme le rappelait également Frédéric Ancel, ne peut tenir ce genre de discours. Et on voit bien, avec une séquence comme celle-ci, à quel point il est difficile aujourd'hui pour des hommes politiques de développer un discours, de développer un récit qui soit un petit peu de nature complexe. C'est-à-dire que c'est plus qu'on attend d'eux, en quelque sorte, Christian Salmon.
C'est bien la difficulté de notre qui réside au cœur de notre discussion. C'est-à-dire que vous avez choisi le titre que vous avez choisi pour cette émission prouve bien qu'il y a un problème. Ce ne sont pas des argusies d'intellectuels ou une espèce de sophistique, privé de tout engagement concret, de toute responsabilité concrète. Il y a bien un problème, c'est que depuis le mois de janvier 2015, on a un gouvernement qui réplique sur le mode qui prétend à notre ami Frédéric Ancel, mais le fait est c'est que la réaction, la perception de ce discours est totalement inopérante. C'est-à-dire que ce qui est en train de se développer, la question à laquelle nous sommes sensibles, nous les intellectuels, c'est de percevoir le climat démocratique qui existe dans un pays. Ce qui est en train de se développer avec une sorte de parole raciste décomplexée, et pas seulement dans les quartiers ou dans les villes de notre beau pays, mais également au niveau politique, dans les comportements à l'Assemblée nationale, etc. C'est un délitement de la démocratie. Vous savez, Hermann Broer disait « Entre le groupe humain et le groupe humain pèse le mutisme qui précède le meurtre ». Il disait ça en 1934. C'est-à-dire qu'il disait « Un mépris singulier et presque un dégoût du monde s'est emparé de notre humanité ». Le sentiment, au fond, que ça ne vaut pas la peine de se convaincre, d'échanger, de discuter, d'argumenter. C'est ça le pré-totalitarisme, si on doit faire des comparaisons. C'est-à-dire que on est dans une situation où la parole publique n'est plus capable de relier ces groupes humains qui vont s'opposer demain dans la rue si ça continue. Et donc la question qui nous est posée, c'est quel type de discours faudrait-il avoir ? Et c'est là où je pense que moi...
Et quelle réponse vous apportez-vous, par exemple ? Parce que on va entendre Frédéric Ancel qui lui apporte sa réponse. Vous, Christian Salmon, c'est quoi votre réponse à cette question ? Quel discours opposer au discours de Daesh ?
Moi je pense que il faudrait renouer avec une démocratie plus vivante. Et ce qui me frappe quand même, il faut mettre les choses en perspective aussi, c'est que s'est-il passé entre le 13 novembre 2015 et les événements de Nice récemment au mois de juillet? Il y a eu un mouvement dans tout le pays qui s'appelait la Nuit debout, qui était un mouvement de résistance et de rejet du projet de loi travail. Et on a passé son temps depuis 6 mois à l'Assemblée nationale, dans les rues, avec des stratégies policières extrêmement violentes, à réprimer ce mouvement, cette parole qui voulait s'exprimer. C'est quand même étrange après d'appeler le peuple à la grande unité, alors qu'on a passé 6 mois. Et donc on pourrait opposer au pouvoir actuel poser cette question, au moins cette question. Est-ce que pendant ces 6 mois, il n'aurait pas mieux fait de s'occuper de la sécurité du pays plutôt que de réprimer des jeunes gens qui ont des choses à dire sur la société, sur la façon de vivre notre démocratie, et qui était quelque chose qui exprimait une grande vitalité du débat démocratique.
D'accord. Donc en fait, c'est la reprise de parole démocratique par le peuple. Voilà une possibilité selon vous. Je vous donne la parole en 30 secondes, Myriam Revaudan, ou peut-être un peu plus, parce que là, je vais la donner à Frédéric Ancel, qui n'est pas ici évidemment pour porter la parole de l'actuel gouvernement, loin de là. Vous avez une autre réponse, vous, Frédéric Ancel, à ce contre-discours à opposer aux terroristes, avec cette idée aussi que, finalement, les terroristes n'ont que le pouvoir qu'on veut bien leur donner. Il faut peut-être rappeler ça aussi. C'est-à-dire, c'est ce qui donne toute la responsabilité à ce contre-discours, à la parole politique, aujourd'hui.
Oui, absolument. D'abord, j'ai l'impression de ne pas vivre dans le même pays, parce que j'ai visité beaucoup de pays en guerre, ou des pays pour le coup totalitaires, dont les régimes étaient totalitaires ou ne serait-ce qu'autoritaires. Nuit debout a fini par se dissoudre de lui-même. C'est un mouvement tout à fait formidable, sans aucun doute, mais personne n'y a mis fin. Ça, je voudrais être extrêmement clair là-dessus. La France a su rester et sait rester aujourd'hui une authentique démocratie. Et entre parenthèses, si dans cette, sur cette antenne ce soir, on peut débattre de ces choses-là et qu'on peut débattre dans tout le pays, y compris dans la rue, et je fais beaucoup de conférences à Paris et en province, en dépit de l'état d'urgence, c'est pas exact. Nous vivons dans une véritable démocratie qui a encore un souffle extrêmement fort, peut-être pas suffisant, en tout cas un souffle très
voilà qui est dit.
En période d'adversité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, je l'ai écrit effectivement avec Lacoste, c'est la nation. Si vous voulez, la nation, d'abord, à l'origine, c'est une idée de gauche, c'est pas une idée de droite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la nation, ça vous permet de décliver ou de dépasser des clivages claniques, tribaux, religieux, identitaires, selon le, comme le dit aujourd'hui une partie de l'extrême droite française, et de se retrouver autour, oui, c'est vrai, d'un narratif comme des Américains, d'un récit national qui permet donc de décloisonner des communautés. Je n'aime pas le terme, mais il faut bien aujourd'hui l'employer, bon, en 2016. Et je dirais que ce socle de la nation que nous avons malheureusement, je le disais tout à l'heure, assez largement abandonné, notamment à l'extrême droite, y compris la gauche, hein, la gauche l'a abandonné à l'extrême droite, malheureusement, me semble-t-il, mais également le réenchantement de la République avec ses mots, ses sonorités, ses symboles, ses valeurs, ses banquets, que sais-je encore. Je crois que là, nous avons effectivement quelque chose de puissant, de fort et de commun. Et de démocratique à mettre tous ensemble, quelles que soient encore nos origines, face à des mouvements dont je répète, car j'ai étudié l'islamisme radical, qu'ils sont totalitaires et que la politique qui est menée par ces mouvements en Syrie et en Irak est une politique de type génocidaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'ONU qui date déjà de 2014. Par conséquent, nous sommes bien là avec la nation et la République, me semble-t-il, encore une fois humblement, sur des valeurs qui sont sur un socle
qui sont propres à s'opposer finalement, à opposer un discours absolument suffisamment fort à celui des terroristes.
Absolument. Mais un tout dernier mot, bien évidemment, une République fondamentalement laïque, une nation laïque. Il faut opposer au fanatisme religieux notre laïcité à la française.
Myriam Revaud-Allan.
Oui, moi je trouve que notre discussion est une illustration extraordinaire de tous les équivoques et de toutes les ambiguïtés qui grèvent non seulement la mise en récit par les politiques, mais la mise en récit par les intellectuels. Parce que effectivement, moi je peux être plutôt d'accord avec l'idée qu'il faut revitaliser le récit démocratique. Et là, je pourrais adhérer à la formule de Christian Salmon, mais je ne pense pas qu'un mouvement comme la nuit debout, quelle que soit la sympathie que l'on puisse avoir a priori pour ce mouvement, soit le témoignage d'une véritable revitalisation de ce qui fait la société démocratique. Alors ce qui est intéressant par exemple dans ce mouvement, c'est effectivement la représentation des subjectivités, la mise en acte, au fond d'une certaine volonté d'agir, mais on sait très bien aussi quelle est l'extraordinaire naïveté qui a habité ce mouvement et qui ne tient pas compte. Alors, je pense que cette question de la complexité démocratique, c'est-à-dire au fond, et de la fragilité de la démocratie, qui est une question absolument fondamentale. La démocratie, on pourrait presque dire que c'est d'une certaine façon, c'est la grandeur, mais c'est aussi la grandeur fragile.
Michel Rocard, dans un texte récent publié par Le 1, après sa mort d'ailleurs, rappelait ce qu'il appelait la faiblesse politique de la démocratie.
Bien sûr, la faiblesse politique de la démocratie, mais qui fait en même temps sa force.
Qu'elle est incapable de créer l'enthousiasme.
Alors, elle est incapable de créer l'enthousiasme dans les circonstances actuelles. Alors, revitaliser la démocratie, ce serait très probablement un travail d'extrêmement longue haleine qui remonterait, à des nécessités pédagogiques et éducatives.
Ça passe par les mots.
Ça passe pas seulement par les mots, ça passe par la connaissance. Ça passe par le savoir historique, ça passe par un certain nombre, ça passe par l'éducation politique, et ceci dès l'école. L'instruction civique, ça n'est pas non plus un vain mot.
On arrive au bout, on vous a entendu, l'éducation civique n'est pas un vain mot, Myriam Revaud-Allan. On arrive au bout de cette émission, mais je voulais quand même avoir une réaction de votre part, en forme, peut-être pas de conclusion, parce que c'est compliqué, mais sur cette citation de Michel Rocard, sur cette faiblesse politique de la démocratie et sur la capacité qu'on peut avoir d'y répondre, de pallier cette faiblesse par le biais du discours aujourd'hui.
Écoute,
Écoutez, l'évocation de Michel Rocard, vous savez qu'on lui prêtait cette expression, d'ailleurs il s'en est éloigné un peu en disant que c'était une connerie, entre guillemets, le parler vrai, hein, mais j'y fais référence pour renvoyer à la pensée de Michel Foucault sur la parésia dans son séminaire. C'est-à-dire que Michel, dans notre époque où la parole politique est formatée sous la forme d'une performance, une performance médiatique incluant des puissances de narration, un certain timing, une capacité à réseauter, à faire réseau, etc. Eh bien, justement, Michel Foucault opposait la parésia, la bonne parésia, disait-il, qui, dans les conditions pragmatiques, met en scène justement cette fragilité de la délibération. Parce que, moi ce qui me frappe actuellement, Myriam Revaud-Allonne a raison de parler de cette fragile et permanente nécessité de réinventer la démocratie. Vous voyez, c'est assez différent de ces discours péremptoires qu'on entend du haut de la tribune, de ces coups de menton permanents, de cette rhétorique insistante. Je lisais avant votre émission le premier secrétaire du Parti Socialiste qui maintenant nomme Daesh le daeshisme. Hein, vous voyez, ce genre de fabrication de concepts, de clichés.
Elles sont moins de nature à faire avancer le débat qu'à l'obscurcir, selon vous, si j'ai bien compris.
Ça crée des polarisations au lieu justement de déployer le discours, de permettre la rencontre des paroles, des discussions et de réélaborer des conditions concrètes.
Très bien. On a compris votre
juste pour la nuit
un
debout,
tout petit mot. Alors très rapidement parce qu'on arrive vraiment au bout, oui, et j'aimerais entendre encore Myriam Revaud-Allonne et Frédéric Ancel.
Je ne faisais pas l'apologie de la nuit debout. Justement.
Mais on a compris que vous y trouviez
cet effort fragile de constituer des conditions de base d'un échange démocratique.
Très rapidement, Myriam Revaud-Allonne.
Oui, moi, j'aimerais terminer en disant qu'il me semble que la réappropriation d'un certain nombre de slogans simplistes est certainement la chose la mieux partagée par tous les protagonistes du débat.
Voilà qui est dit, Frédéric Ancel, pour conclure.
Je constate avec optimisme et réalisme, je crois, que depuis un an et demi, deux ans, que nous sommes frappés par des attentats du type islamiste radical, eh bien, heureusement, au sein de la classe politique et dans la population, peu de personnes, très peu de personnes, trop peut-être, mais encore peu de personnes, font l'amalgame entre islam et islamisme radical. Et ça, je crois que c'est l'une des preuves de la maturité et de la force de notre démocratie. Et
espérons que ça continue. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission qui, pour moi, était la dernière, puisque dès lundi, vous retrouverez Émilie Chaudet. Bonsoir, Émilie.
Bonsoir, Raphaël.
Et donc, vous prenez le flambeau dès lundi, avec un sujet en particulier.
Que doit-on attendre de la politique ?
Ah bah, vous prenez la suite parfaite de l'émission d'aujourd'hui.
De l'émission ce soir, oui, c'est ça.
Et donc, jusqu'à la fin du mois d'août ?
Jusqu'à la fin, jusqu'au 25-26 août.
Parfait. Ben écoutez, on vous écoutera évidemment avec attention tous les soirs à 18h15 sur France Culture. Merci d'être passé.
Merci, bonnes vacances.
Merci, j'en aurai bien besoin. Il me reste à remercier toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission depuis un mois. Les attachés de production, évidemment, Laurence Genepin, Marie Dalquier, Aurélie Marcet et surtout Catherine Donnet qui nous a accompagnés presque tout au long de ce mois. Aux chargés de réalisation, évidemment, Véronique Villa et Anne de Pelchin qui étaient ce soir avec moi. Merci au stagiaire Tanguy Omri qui a su illustrer à merveille l'idée selon laquelle la valeur n'attendait pas le nombre des années. Et bien entendu, un immense merci à Alexandre Agege pour sa programmation, ses conseils, sa capacité parfois à penser contre lui-même et à me rappeler que mal nommer les choses, c'est un peu ajouter au malheur du monde. Lundi, donc, Émilie Chaudet, on vous retrouve à la technique ce soir. C'était Clément Daté, le grain à moudre d'été. C'est à réécouter et podcaster sur franceculture.fr.